France Culture. Le cours de l'histoire. Xavier Mauduit.
Archéologie, histoire, art. Quatre expositions pour l'été. La plage, les randonnées, les apéros entre amis, les lectures, les festivals aussi. Et bien sûr, visites, découvertes. C'est ça les vacances, l'occasion de constater le foisonnement culturel partout en France. Dans les villes, dans les villages, menés par les institutions, mais aussi par les initiatives privées. C'est le grand plaisir, vous savez, d'acheter le journal du coin, de regarder, tiens, mais qu'est-ce qu'on pourrait aller voir. Et d'être surpris, charmé, enchanté, quand les ministres de la culture de leur côté sont parfois un tantinet blasé.
Allez-vous, bonjour.
Oui, bonjour. Bonjour, monsieur le ministre.
Vous allez bien,
bonjour,
monsieur le ministre. Jérémy, ça va? Bonjour.
Ça va,
bonjour.
Ça.
Bien, je reviens d'Avignon, je suis un peu haut.
Je comprends pas, Sabine. C'est 350 photos de sexes différents ou c'est la même pin photographiée 350 fois?
C'est magnifique.
J'aime énormément celui-là. Le tout petit? J'en suis folle.
C'est bizarre, Sarah. Je vous demande simplement de me dire si c'était dans cette salle qu'était les Kandinsky. Vous me répondez franchement. On a été obligé de remplacer les Kandinsky pour exposer une série de braquemars et on n'en parle plus. Point barre. Et moi, je rentre chez moi.
Madame.
D'autant que je ne vous en voudrais pas parce que j'aime assez tous ces portraits.
Ben, sans faute, hein. Là, on est loin devant.
Un sans faute, le film de Jean-Michel Ribes en 2007, Musée haut, musée bas. Et aujourd'hui, nous allons exposer les expositions dans le cours de l'histoire. Rolande Simon-Millot, bonjour.
Bonjour, Xavier Mauduit.
Vous êtes conservatrice générale du patrimoine, responsable scientifique des collections du Néolithique et de l'âge de bronze au Musée d'archéologie nationale. C'est à Saint-Germain-en-Laye. Ce plaisir que j'évoquais des expositions l'été, j'imagine que vous le connaissez aussi. Parce que c'est ça, hein, c'est l'occasion de découvrir des choses que l'on n'allait pas vraiment chercher parfois.
Oui, bien sûr, moi-même je visite des expositions, ça m'arrive souvent.
Oui, oui, c'est ce grand plaisir-là à Saint-Germain-en-Laye. Quelle est l'exposition proposée?
Alors, nous proposons une grande exposition consacrée à une période assez méconnue de notre histoire, malheureusement, qui est donc l'âge du bronze en France, précisément.
Et en plus, j'aime bien parce que dans le titre même de l'exposition, il y a les dates, histoire que l'on situe bien, 2300, 800 ans avant Jésus-Christ.
Exactement.
Là, nous sommes à Saint-Germain-en-Laye, pas très loin de Paris, bien sûr. Mais aujourd'hui, nous allons aller jusqu'à Carpentras. Jean-Yves Mauduit, bonjour.
Bonjour, monsieur Mauduit.
Mauduit. On va faire attention à la diction. Dites-nous, quel est le musée qui porte l'exposition?
C'est la bibliothèque Musée Ingamertin à Carpentras, donc, qui est une institution un peu atypique, qui est à la fois bibliothèque et musée, une bibliothèque avec des fonds patrimoniaux d'intérêt national. La bibliothèque est classée et la collection muséale est aussi d'intérêt national puisqu'elle a reçu l'appellation Musée de France.
Et puis nous irons du côté de la Normandie aussi à Villequier. Caroline Dorion-Perronnet, bonjour.
Bonjour.
À Villequier, nous allons croiser Victor Hugo, mais pas seulement lui.
Exactement, il y a à Villequier, il y a la maison Vacry, musée Victor Hugo, et on a une exposition sur Léopoldine.
Et avec aussi Toulouse qui sera évoqué, le musée Saint-Raymond, c'est l'histoire de traverser la France. Et je m'excuse par avance auprès de toutes celles, tous ceux qui portent des expositions, sachant qu'il y en a plein. Mais l'objectif aujourd'hui, c'est vraiment de donner ce goût, cette envie d'exposer les expositions. Dites-nous, Rolande Simon-Millot, toujours dans ce système d'exposition, il y a les collections permanentes hein, qu'on peut aller voir et l'exposition en parallèle. Ça se construit souvent ainsi et les deux vont de pair d'ailleurs.
Mais bien sûr. Donc nos salles de l'âge du bronze sont ouvertes, hein, on peut les visiter en parallèle de la grande exposition sur l'âge du bronze, mais nos salles sur l'âge du fer également sont visibles. Malheureusement, actuellement au musée, la préhistoire et la période gallo-romaine sont fermées pour cause de travaux, car nous sommes en pleine rénovation.
D'accord, donc le musée est en rénovation, mais on peut voir quand même des choses, des collections permanentes, et on peut voir cette exposition consacrée au maître du feu, c'est le titre, l'âge du bronze en France.
Pourquoi je me suis intéressé à la poêle à frire? Bien, parce que je m'intéresse, disons, à l'ethnographie culinaire. Et ce qui m'a frappé, c'est que cet ustensile de cuisine, en apparence trivial, apparaît comme ayant une importance culturelle en France et ailleurs.
Je suis chaudronnier, tout au moins j'ai une carrière de chaudronnier, et actuellement je fais des études d'ethnologie pour rechercher l'histoire des techniques et la diffusion des techniques à travers les différentes civilisations. Et c'est pour ça que je m'intéresse particulièrement à la fabrication des poêles à frire et disons à l'histoire des poêles à frire, et que j'en fabrique moi-même. Bien sûr, Il faut attendre l'apparition du feu pour voir les premières fritures. Il faut attendre l'arrivée de la métallurgie, et en particulier celle du cuivre, pour voir les premiers chaudrons et les premiers instruments de cuivre se dessiner dans différents horizons, c'est-à-dire dans le bassin du Caucase et dans le bassin de Mésopotamie.
Nous sommes passés par une archive de France Culture en 1975 sur l'histoire de la poêle à frire. C'est peu probable, mais ça existe avec au musée de l'archéologie nationale, musée d'archéologie nationale à Saint-Germain-en-Laye dans les Yvelines, une exposition sur l'âge du bronze. D'ailleurs, qu'est-ce que l'âge du bronze? Moi, je vous posais deux questions, c'est qu'est-ce que l'âge du bronze et qu'est-ce que le bronze aussi. Donc l'âge du bronze, c'est quoi? Ça succède à quoi?
Alors, l'âge du bronze, ça succéderait assez naturellement à l'âge du cuivre, sauf qu'en France, on n'a pas vraiment d'âge du cuivre. On a effectivement un début de métallurgie du cuivre à partir de la fin du 4e millénaire, mais c'est pas suffisant pour qu'on puisse avoir l'appellation âge chalcolithique ou âge du cuivre, qui existe par ailleurs au Moyen-Orient. Voilà.
Et le bronze, qu'est-ce?
Et alors, le bronze, c'est un alliage. C'est un alliage d'étain et de cuivre. Donc il faut effectivement d'abord maîtriser la métallurgie du cuivre avant de passer à autre chose, à une espèce de sursaut technique qui est l'alliage. Et en l'occurrence, le bronze, c'est un alliage d'étain et de cuivre.
Qu'est-ce que ça a changé dans notre longue histoire humaine?
Alors, ça change beaucoup de choses. Vous le savez bien, l'histoire, c'est un petit peu de la géographie, c'est aussi les questions des ressources. On n'a pas le même cours de l'histoire en fonction des ressources que l'on a sur notre territoire. Et l'âge du bronze nécessite d'avoir du cuivre et de l'étain. Or, ce sont deux métaux qui ne se trouvent pas au même endroit. Les gisements d'étain sont particulièrement rares. Et or, l'étain, c'est indispensable pour faire du bon cuivre, pour faire du bon bronze, un métal qui est beaucoup plus dur, plus résistant et plus beau aussi que le cuivre tout seul. Il faut de l'étain. Or, l'étain, c'est rare. Et l'étain, on en trouve notamment dans ce qu'on appelait autrefois les îles cassitérites, en Angleterre, en Bretagne, en Cournouailles. Donc dans des secteurs qui sont quand même très localisés et donc qui nécessitent de ménager des échanges très importants, maritimes, terrestres, qui font que tout ce métal circule pour faire ce beau matériau qui est le bronze.
Qu'est-ce que vous avez à montrer sur cet âge du bronze? C'est toujours la grande difficulté aussi de montrer des choses et de les rendre compréhensibles. Qu'est-ce qu'il y a à montrer?
Alors, déjà, pourquoi faire cette exposition maintenant? Je pense que c'était important, et avec qui? Donc, cette exposition, on l'a fait avec l'INRAP, donc l'Institut National de Recherche Archéologique Préventive, et avec l'APRAP, qui est l'Association pour la Promotion des Recherches sur l'âge du bronze en France. Et si on fait une exposition maintenant sur l'âge du bronze, c'est parce qu'on a des choses à montrer. C'est parce qu'on a trouvé des choses sur le territoire national qui sont très intéressantes et qui permettent d'éclairer peut-être un petit peu différemment une période que l'on connaît mal et que l'on connaît, c'est jusqu'à présent, quasiment exclusivement à partir des beaux objets, mais des beaux objets qui ne disaient pas grand-chose, en fait.
Oui, voilà, maintenant, il faut faire dire des choses à ces objets trouvés ici et là. Et vous avez évoqué l'INRAP, hein, l'Institut National de Recherche Archéologique Préventive. Ce sont ceux que l'on appelle dès qu'il y a un chantier pour dire « oh, regardons, avant de creuser, de tout détruire, s'il n'y a pas quelque chose ici ». Et c'est un bien précieux. Et la France dispose de l'INRAP, ce que le monde entier, le monde scientifique, nous envie partout dans le monde. Non, mais ça a profondément enrichi notre connaissance de notre histoire. Et pas seulement notre histoire ancienne d'ailleurs, hein, ça traverse les siècles.
Non, mais c'est particulièrement vrai pour ces périodes qui laissent peu de traces, comme le néolithique ou l'âge du bronze, pour lesquelles les vestiges sont très difficiles à lire. Et on n'a pas de grands monuments, on n'a pas de matière très, on n'a pas de temples, on n'a pas de grandes cités urbaines comme en Mésopotamie ou en Égypte, qui à l'âge du bronze ont donc connu ces grands phénomènes urbains. Nous, on a essentiellement des petits villages, des petites maisons, des espaces qui sont difficiles à lire autrement qu'à travers l'archéologie préventive. Donc pour nous, c'est extrêmement précieux. Et depuis 30 ans, ça a quand même révolutionné notre approche de cette grande période.
Alors, qu'est-ce que vous montrez?
Alors, qu'est-ce qu'on montre? Alors, on montre des beaux objets. Ah, je vous rassure quand même. On montre même des très, très beaux objets, des pièces qui sont absolument époustouflantes. Et je pense qu'il est difficile de mesurer à quel point les bronziers de l'âge du bronze étaient doués, étaient talentueux. C'était de grands technicien. Et nous avons donc eu notre journée de l'archéologie préventive au musée ce week-end, et on avait fait venir des fondeurs de la fonderie Coubertin, qui sont donc des grands bronziers d'aujourd'hui, qui pratiquent le bronze d'excellence, et ils ont tous été époustouflés par les objets qu'on leur a présentés. Et on leur a lancé des défis. Essayer de refaire des pièces telles qu'on les pouvait les voir à l'âge du bronze dans nos salles aujourd'hui, avec des méthodes qui devaient s'approcher des méthodes de l'époque. Et ben c'est très 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 compliqué, en fait. Réaliser une cuirasse de l'âge du bronze avec les méthodes des bronziers de l'âge du bronze, c'est très très difficile. Réaliser on va présenter par exemple un certain nombre d'épées, réaliser une belle épée en bronze, c'est difficile. Parce que le bronze, donc, c'est une matière qui va se fondre, et après que l'on va écrouir, pour la durcir, mais la fonte même du bronze, il faut obtenir donc 1100 degrés pour fondre notre épée en bronze, et puis il faut réussir à la couler sans avoir trop de bulles d'air, ce qui est très très compliqué, et puis après il faut l'écrouir de manière à ce qu'elle soit suffisamment dure pour être utilisable. Et ça aussi, c'est une autre difficulté.
C'est un moment particulier d'ailleurs, celui d'une exposition que vous évoquez ici, ce qui s'apparente à de l'archéologie expérimentale, c'est retrouver ces gestes du passé. Oui. Une exposition, ce n'est pas simplement la volonté de montrer des choses. Non. Et pourquoi pas d'ajouter des éléments de transmission, parce que j'ai envie de dire que c'est la base même de votre travail, mais c'est aussi réfléchir à ce sujet particulier, en l'occurrence ici, c'est l'âge du bronze.
Oui. Et comme c'est une période qui est très peu connue, donc il n'y a pas, enfin, si je vous interroge sur l'âge du bronze, je pense pas, surtout en France, je ne pense pas que vous ayez beaucoup d'images qui vous viennent à l'esprit comme ça. On n'a pas d'Astérix, on n'a pas de Raon, c'est pas une période populaire. Donc, il a fallu pour transmettre cette idée-là, que l'on soit très pédagogue. Donc ça, on a été essayé avec mes commissaires Cyril Marcigny, Rebecca Pic et Stéphane Wirth de travailler sur cette pédagogie, de choisir des thématiques qui soient immédiatement compréhensibles par le public. C'était compliqué, mais on a, parce qu'il a fallu qu'on tranche quand même, et puis on a essayé d'apporter des images. Donc on a travaillé avec un grand dessinateur d'archéologie qui s'appelle Pierre-Yves Videlier. Et Pierre-Yves Videlier nous a donné des images de ces bronziers, de ces femmes de l'âge du bronze aussi qui travaillaient, qui vivaient, pour réussir à incarner un peu cet âge du bronze qui, sinon, paraissait un peu conceptuel.
Oui, voilà, conceptuel. Et à l'inverse, si nous allons faire un petit tour à Vilquier avec Léopoldine et Victor Hugo, là, nous avons des personnages très connus. Et justement, la démarche, c'est d'aller au-delà du cliché, simplement de cette image un peu figée que nous pouvons avoir de ce grand auteur et de sa fille.
Oui, effectivement, cet été, on monte une exposition qui s'appelle « Aime celui qui t'aime ». Donc autour de Léopoldine Hugo, puisque Léopoldine Hugo est née en 2024, le 28 août 2024, de 1824. Donc ça fait 200 ans qu'elle est née. Et donc l'idée, c'était vraiment de valoriser ce personnage-là, puisque c'est un personnage qui est extrêmement lié à la Maison Vacry et au musée Victor Hugo. Et l'idée, c'est qu'on a fait intervenir un scénographe qui s'appelle Jean Haute, qui est un scénographe, architecte d'intérieur, décorateur, puisque bon, on est dans une maison bourgeoise du 19e siècle, en bord de Seine, une des plus belles boucles de la Seine, magnifique. Et l'idée de cette intervention, c'était justement d'essayer de faire revivre cette maison en apportant le regard d'un décorateur, d'un scénographe qui voulait faire revivre cette maison, entre guillemets, et les gens qui ont habité cette maison, Léopoldine, la famille Vacry, qui est moins connue que la famille Hugo. Et donc l'idée, c'était vraiment de faire une exposition qui soit sensible, aussi immersive. On a des très beaux objets patrimoniaux avec un fort pouvoir émotionnel. Par exemple, on a bénéficié des prêts exceptionnels de la maison Victor Hugo à Paris. Ils nous ont prêté notamment sa couronne de mariée et également la robe dans laquelle Léopoldine s'est noyée. Donc c'est des éléments patrimoniaux qui ont un pouvoir émotionnel extrêmement fort. Et l'idée, c'était vraiment d'essayer de valoriser cette émotion-là et de faire ressentir la vie dans cette maison et aussi le deuil, puisqu'il y a aussi cette période-là.
Avec toujours, au moment d'évoquer Léopoldine, c'est vrai qu'il y a une émotion obligatoire et un poème.
Maintenant que Paris, ses pavés et ses marbres, et sa brume et ses toits sont bien loin de mes yeux, maintenant que je suis sous les branches des arbres et que je puis songer à la beauté des cieux, maintenant que du deuil qui m'a fait l'âme obscure, je sors pâle et vainqueur, et que je sens la paix de la grande nature qui m'entre dans le cœur. Maintenant que je puis, assis au bord des ondes, ému par ce superbe et tranquille horizon, examiner en moi les vérités profondes et regarder les fleurs qui sont dans le gazon. Maintenant, ô mon Dieu, que j'ai ce calme sombre de pouvoir désormais voir de mes yeux la pierre où je sais que dans l'ombre elle dort pour jamais. Maintenant qu'attendrie par ces divins spectacles, plaine, forêt, rocher, vallon, fleuve argenté, voyant ma petitesse et voyant vos miracles, je reprends ma raison devant l'immensité. Je viens à vous, Seigneur, Père auquel il faut croire. Je vous porte apaisé les morceaux de ce cœur tout plein de votre gloire que vous avez brisé.
Christian Gonon qui nous lisait Abilquier de Victor Hugo. Dans cette histoire-là, il y a Victor Hugo, on ne va pas le présenter, sa fille Léopoldine qui a épousé Charles Vacry, donc d'où cette histoire et cette deuxième famille. Caroline Dorion-Perronnet, vous êtes conservatrice en chef du patrimoine, chargée de mission scientifique pour les musées de la Seine-Maritime et commissaire de l'exposition Aime celui qui t'aime, Léopoldine Hugo à Vitier. Il y a de l'émotion, je le dis, et demain dès l'aube, à l'heure où blanchit la campagne, je partirai, vois-tu, je sais que tu m'attends. C'est sûr que ça fait partie des incontournables de notre littérature. C'est aussi mettre des personnages, des gens qui ont existé dans cette histoire-là.
Oui, effectivement, l'idée, c'est d'incarner tout ce poème-là en particulier, qu'on connaît très bien, et d'autres poèmes de Victor Hugo. Là, on a entendu Avilquier, c'est aussi un très beau poème, donc ça fait partie des ensembles publiés dans les Contemplations de Victor Hugo, donc publiés en 1856. La mort de Léopoldine Avilquier le 4 septembre 1843 a vraiment marqué une scission dans l'œuvre de Victor Hugo. Il a arrêté d'écrire, il s'est plutôt mis à gribouiller, c'est-à-dire à faire ses dessins. Il ne s'est remis à écrire qu'en 46 et il n'est revenu à Vilquier qu'en 46, donc 3 ans après le décès de sa fille. Il a été extrêmement productif dans la deuxième partie de l'année 1846, justement, d'un ensemble de poèmes qui sera réuni et publié dans les Contemplations en 56 et qui c'est ce recueil de poèmes donc qui a été édité comme souvent avec Victor Hugo en français. Pour la France et pour l'Europe à Bruxelles, les 3000 exemplaires sont partis en 24 heures. Enfin, Victor Hugo a toujours eu un succès d'édition et ce poème-là, enfin ce recueil-là est extrêmement fort dans l'œuvre de Victor Hugo.
Oui, avec ce drame hein, de 1843, c'est un naufrage. Hein, ils sont sur leur petit bateau sur la Seine et le bateau se renverse.
C'est ça. En fait, l'historiographie a dit que c'était ce qu'on appelle le mascaret, qui est une grande vague qui remontait la Seine au moment des marées, qui avait renversé le bateau. Alors, c'est très beau, c'est très romantique, on va dire, mais en vérité, c'est juste un coup de vent qui a déstabilisé le canot qui était mal lesté. C'était un canot neuf qui avait été mal lesté, et c'est plus une erreur, on va dire, un accident, qu'un geste monumental de la nature avec ce mascaret qui remonte la Seine. Dans ce drame, on perd Léopoldine Hugo, son mari Charles Vacry, et deux parents de la famille Vacry, Pierre Vacry, qui était l'oncle de Charles Hugo, et son fils de 11 ans, Artus, également mort pendant ce drame.
Et là, nous sommes dans une maison, parce qu'il y a plein de lectures différentes dans les expositions. Il y a les objets exposés et il y a le lieu. Ça vaut pour tout le monde, hein. Ça vaut pour les musées que l'on va évoquer aujourd'hui, que ce soit à Carpentras, que ce soit à Saint-Germain-en-Laye. Le lieu lui-même mérite la visite. Donc là, on va avoir l'exposition consacrée à Léopoldine Hugo, mais dans le lieu lui-même qui mérite d'être visité.
Donc effectivement, ce qui est exceptionnel dans l'exposition qu'on monte cette année, c'est que l'exposition temporaire va prendre la totalité des espaces. Alors c'est une grande maison bourgeoise, mais un petit musée, puisqu'il y a 300 mètres carrés d'exposition. Et donc l'exposition temporaire autour de Léopoldine va vraiment se développer dans la totalité des salles d'exposition permanentes du musée. Donc ce que vous voyez normalement dans la maison, c'est-à-dire ce qui raconte l'histoire de la famille Vacry, Victor Hugo, Léopoldine et Charles, la rencontre de Léopoldine et Charles, tout ça est remis en scène dans cette exposition autour de Léopoldine. Et donc on a dû d'ailleurs fermer le musée 15 jours pour pouvoir réaménager la totalité des espaces du musée.
Et puis, qu'est-ce qu'on y voit aussi? Donc, vous l'avez dit, il y a, j'imagine, ces dessins de Victor Hugo, quelques éléments liés à Léopoldine, cette couronne de mariage, la robe.
pardon. On va avoir des manuscrits aussi. Le titre de l'exposition Aime celui qui t'aime, c'est un texte écrit par Victor Hugo le jour du mariage de Léopoldine. Donc, c'est extrêmement important, surtout quand on sait les difficultés qu'a eu Victor Hugo pour accepter le mariage de sa fille chérie avec un bourgeois de province, même pas lettré. Autant le frère de Charles Vacry était lettré, autant Charles était plus un sportif, un homme de terrain, on va dire. Et donc, on a cette correspondance de négociation pour le mariage de Léopoldine avec Charles Vacry. Et c'est vrai que cette difficulté-là de Victor Hugo à accepter. Donc le mariage s'est fait le 15 février à Paris. Et pendant le mariage, il écrit ce poème « Aime celui qui t'aime, sois heureuse en lui ». Et c'était important de le valoriser, ce poème, parce que c'est vraiment c'est le moment heureux, on va dire, de la vie de Léopoldine et de Charles. Six mois après, c'est le drame et ils sont noyés en Seine. Et donc, c'était important pour nous de marquer aussi ce moment-là heureux, et le fait que ce poème-là, que Victor Hugo a écrit pour sa fille pendant la cérémonie, c'est un poème de consentement et c'est un très beau poème écrit à sa fille. Et il se trouve qu'on a un manuscrit de ce poème. Donc il a été publié dans les Contemplations. Les manuscrits des Contemplations sont à la BNF, mais au musée Victor Hugo, on a une lettre de Victor Hugo qu'il écrit à sa fille le 16 février où il y a ce poème « Aime celui qui t'aime ». Donc c'est écrit à Léopoldine Hugo Vacry, qui résidait au Havre à ce moment-là. Et il y a une petite variante dans notre manuscrit, c'est qu'au lieu de dire « sa fille bénie », il parle de sa fille chérie. Donc il s'adresse vraiment à sa fille dans ce poème-là. Et on avait aussi envie de mettre ce manuscrit-là en valeur, qui fait partie des collections du musée.
C'est ce qu'on évoquait il y a quelques minutes. Hein. Une exposition, c'est aussi l'occasion de faire un travail scientifique autour de tous ces documents, de les ressortir, de montrer ce qui était caché aussi, ce qui reste dans les réserves. C'est bien parce que nous, en tant que visiteurs, on aime bien découvrir les choses aussi. On va en parler. Direction Toulouse.
Toulouse, ville espagnole avec la sévérité de ses palais. Toulouse, ville italienne avec ses toits de tuiles calcinées. Toulouse, ville orientale, avec ses clochers qui se dressent dans le ciel comme des minarets. Toulouse, berceau de l'art roman. C'est dans cette région, en effet, que sont nées les premières absides et les premiers tympans, les portails et les triforiums dans toute la perfection de leur forme circulaire. De toutes ces églises, voici la plus vénérable, Saint-Cernin, qui, malgré les transformations qu'elle a subies, conserve son mystère et sa majesté. Dans l'obscurité du sanctuaire brille toujours l'or des lampes. Hélas, que reste-t-il de tous ces édifices religieux qui faisaient il y a deux siècles la gloire de Toulouse? L'église des Carmes a été rasée pour céder la place à un marché, et voici l'église des Cordeliers. Transformée en parc à fourrage à la Révolution, le bâtiment prit feu en 1872. Hasard ou malveillance, nul ne le sait. Une chose est sûre, même incendiée, cette église aurait pu être conservée. On préféra l'abattre, comme à Paris, le palais des Tuileries.
Toulouse, chef-d'œuvre en péril, l'émission de 1968. Laure Barthet, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directrice du musée Saint-Raymond à Toulouse et commissaire de l'exposition « Sortie de boîte, trésor de réserve » qui se tient justement au musée archéologique avec, et on peut le souligner, en tout cas je tiens à le faire, ce travail remarquable du musée Saint-Raymond à Toulouse pour communiquer avec tellement d'humour. C'est « Sortie de boîte », j'aime beaucoup par exemple. Ça veut dire quoi « Sortie de boîte » chez vous ?
Vous avez raison, cela fait quelques années qu'avec mes collègues, nous essayons de développer une ligne un petit peu humoristique. Comme l'expliquait Rolande Simon-Millot à propos de l'âge du bronze, bien modestement, on essaie également de rendre l'archéologie qui peut paraître parfois un peu âpre, plus accessible, et nous avons pris le biais de l'humour, et donc sorti de boîte tout simplement, hein, c'est un voyage dans nos collections qui sont immenses en réalité par rapport à la taille du bâtiment qui est petit, qui ne permet pas de tout exposer, et donc on vous entraîne de l'âge du bronze à l'époque moderne, en passant par Toulouse bien sûr, mais aussi l'Italie pré-romaine, l'Égypte antique et même le Caucase russe.
Avec des objets, des œuvres venues des réserves, c'est bien cela ?
C'était vraiment le but, hein, de cette exposition. Tous les deux ans, nous produisons des expositions avec une problématique scientifique assez ambitieuse, et donc avec des prêts externes, français et même étrangers. Nous sortons là d'une grande exposition qui s'est intitulée « Qatar, entre guillemets, Toulouse dans la croisade ». Et donc, en préparant une prochaine grande exposition, on s'est dit qu'il était temps de donner à voir à nouveau quand même les richesses internes du musée Saint-Raymond, puisque c'est un musée qui s'est constitué assez classiquement, d'ailleurs, avec deux catégories de collections de fond, des collections d'archéologie ancienne, issues d'anciens antiquaires, archéologues, collectionneurs qui ont vendu ou légué leurs biens à la ville de Toulouse. Et puis, ça c'est très important, c'est le cœur battant du musée Saint-Raymond aujourd'hui, les collections issues de l'archéologie récente, issues à la fois des sous-sols toulousains, pensez au chantier du métro par exemple, mais aussi de la région au cas par cas. Et donc, on essaye de montrer avec cette exposition ces deux jambes, finalement, ces deux piliers sur lesquels s'appuie le musée d'archéologie de Toulouse, qu'est le musée Saint-Raymond.
Oui, parce que nous avons cité l'INRAP, l'Institut National de Recherche Archéologique Préventive, mais il y a aussi d'autres institutions qui portent l'archéologie, dans les municipalités par exemple, et il y a partout des archéologues, et c'est tant mieux. Laure Barthet, faites-nous rêver. Qu'est-ce que l'on peut voir dans cette exposition sortie de boîte ?
On a vraiment joué l'éclectisme, hein. Donc il faut un petit peu s'accrocher parce que c'est un grand écart, et même aussi pour nos médiateurs et nous conservateurs, il faut pas passer d'Hatshepsut par exemple, dont on présente un portrait en granit, revenir chez les Messapiens, c'est-à-dire dans le sud de l'Italie avant l'extension de la République puis de l'Empire romain, et puis petit clin d'œil, même gros clin d'œil à l'âge du bronze dans nos régions, en lien évidemment avec la programmation du Musée d'archéologie nationale à ce titre. On a deux en fait, roues de char processionnelles ou funéraires, et donc une roue a été prêtée au musée d'archéologie nationale et on présente la seconde, et ce sont des objets absolument extraordinaires. Et puis pour Toulouse, ce sont vraiment alors des objets qui moi me touchent énormément, hein, qui témoignent de la vie dans notre cité. Alors là on a fait un focus sur la période médiévale, mais on vous présente des objets de parure, on vous présente des fragments de l'ancien château des comtes de Toulouse qui est longtemps, enfin dont l'emplacement est longtemps resté mystérieux pour les Toulousains jusqu'à sa découverte au début des années 2000. Et puis on a aussi des collections du tout début du Moyen-Âge, cette période extraordinaire pour Toulouse où le règne des Goths est fauché en plein vol par la conquête de Clovis. Donc vraiment c'est un voyage dans le temps et dans l'espace.
Avec ici un voyage scientifique entre les différentes institutions. Rolande Simon-Millot, le dialogue est constant toute l'année. Au moment d'imaginer une exposition pour vous au musée d'archéologie nationale à Saint-Germain-en-Laye, c'est l'âge du bronze. Vous êtes, on l'a dit, c'est un travail scientifique en relation avec toutes les autres institutions. Bah, par exemple, le musée Saint-Raymond à Toulouse.
Bien sûr, je remercie ici Laure Barthet une fois de plus pour le magnifique prêt qu'elle nous a fait de cette très belle roue de fin, qui est effectivement une roue en bronze, une roue à rayons, qui permet d'exprimer de tous ces échanges terrestres et le travail qui est réalisé à l'âge du bronze pour permettre l'usage du cheval qui va tirer ses chars. Ce sont des roues qui sont extraordinaires et qui sont des chefs-d'œuvre, hein, de fonderie. Nous avons évidemment construit cette exposition avec d'autres institutions qui nous ont fait l'honneur et la grande joie de nous prêter leurs plus beaux ensembles de façon à illustrer de la plus belle manière possible l'âge du bronze en France.
Avec ici toujours cette difficulté de la médiation, Laure Barthet, à Toulouse, vous nous l'avez dit dans cette exposition sortie de boîte, il y a ce que l'on pourrait qualifier d'éclectisme, mais il y a beaucoup de choses et nous traversons l'Égypte ancienne, nous traversons les périodes beaucoup plus proches de nous avec tant et tant d'objets qu'il faut relier les uns aux autres. Et c'est difficile, hein, de passer d'une momie de l'Égypte ancienne à des éléments, je ne sais pas moi, mérovingiens. Comment ça s'imagine une telle exposition ?
Alors vous avez entièrement raison. Une des difficultés que nous percevons, c'est que l'histoire au collège, au lycée, est souvent enseignée en bloc, c'est-à-dire vous voyez les Égyptiens, les Grecs, les Romains, et donc finalement on a l'impression de civilisations comme ça qui naissent et s'effondrent sans dialogue, sans superposition, sans chevauchement, alors qu'évidemment l'archéologie montre bien que à certains moments de leur histoire, toutes ces civilisations non seulement échangent entre elles, commercent, évidemment parfois se font la guerre, et donc on a des influences artistiques, politiques, économiques en permanence. Et vous parliez de la momie que nous présentons, Inhyman Snevhout, qui n'était pas n'importe qui, c'était la fille du portier d'Amon, donc sur le temple qui était sur la rive droite du Nil à Thèbes. Eh bien, cette momie est à peu près contemporaine des roues du char de Fa dont parlait Roland Simon Millot. L'âge du bronze, évidemment, n'a pas touché que l'Europe occidentale, on a l'âge du bronze, évidemment, en Égypte antique aussi. Donc, ce lien, il est fait par des outils assez classiques de la cartographie, un peu de chronologie, et puis par la maestria de nos médiateurs qui vont essayer précisément de donner ces clés d'entrée à nos visiteurs pour que eux-mêmes fassent le lien entre des notions qu'ils ont, qu'ils connaissent, mais qu'ils ne replacent pas forcément les unes par rapport aux autres.
Roland Simon Millot, c'est un défi. Ce défi, il est gigantesque au moment d'aller visiter, éventuellement de demander à des plus jeunes « Ah, tu viens, tu vas voir, c'est formidable !» La momie, ici, au musée de Toulouse, elle va être efficace. Ça, nous le savons bien. Comment rendre sensationnelle une roue de l'âge de bronze? Non, mais parce que vous, scientifique que vous êtes, évidemment, vous la voyez exceptionnelle, oui. Mais l'idée, c'est justement cette médiation, c'est de montrer à tout le monde qu'elle l'est vraiment.
Oui, et c'est vrai, c'est une vraie difficulté. Hein. C'est là où l'incarnation, c'est là où le dessin, par exemple, peut être utile dans une exposition. Montrer à voir. C'est là aussi où, je pense, la façon dont on va construire le parcours. On prend le visiteur par la main. C'est une promenade, en fait, une exposition. On l'amène, on le fait suivre un discours. Et j'espère qu'à l'issue de l'exposition, le visiteur aura compris un peu ce qu'on a voulu lui montrer et lui expliquer. Et la roue de face, c'est un des éléments marquant de cette exposition, mais c'est pas le seul. Vous parliez tout à l'heure aussi de l'usage du lieu, la beauté du lieu, la façon dont l'exposition a été dessinée. C'est aussi très important pour nous. On fait partager un rêve aussi dans une exposition. Donc il faut que le discours, le message, l'image se marient pour finalement donner à voir, donner à comprendre quelque chose qui fera sens auprès du public.
Et le défi, c'est aussi ne pas se laisser submerger par l'émotion, ou en tout cas pas faire un spectacle où derrière il n'y a pas de fond. Caroline Dorion-Père-Renet, pour l'exposition consacrée à Léopoldine Hugo, donc c'est à Villequier, qu'est-ce que l'on fait pour conserver l'émotion mais sans faire une exposition spectacle où il y aurait trop d'émotion?
Eh ben, on a des techniques de conservateur, je dirais. Donc on met des objets patrimoniaux vraiment en valeur, qui scénographiquement sont vraiment mis en valeur par rapport à d'autres objets qu'on va qualifier de décors, de façon à ce que l'œil, en fait, l'idée, c'est que quand les visiteurs rentreront dans une pièce, il y aura une émotion générale, une perception de, par exemple, on va rentrer dans le grand salon, c'est la salle à manger, et là il y a une table qui est dressée pour 5 personnes, et donc on va raconter cette histoire-là de pourquoi il y avait 5 personnes, parce que oui, tout le monde connaît le drame de Léopoldine, Demain dès l'aube, mais les gens oublient que déjà c'est pas le mascaret qui a renversé la barque, mais qu'ils étaient quand même 4 dans ce canot, et qu'il y a Léopoldine et Charles qui sont morts, mais il y a aussi des membres de la famille Vacré qui sont morts, et l'idée, c'est de réussir à lier à la fois cet effet scénographique et émotionnel avec des éléments de discours et d'histoire et de compréhension pour incarner justement ces personnages et l'humanité de ces personnages-là.
Avec l'incarnation, c'est toujours très très important, parce qu'il n'y a pas d'histoire qui n'est pas incarnée, et même que ce soit l'histoire des idées, il y a toujours des hommes, des femmes derrière cette idée-là, ces œuvres-là, il y a toujours quelqu'un qui a construit ou qui a regardé. Et le voyage du cours de l'histoire aujourd'hui à travers ces expositions pour l'été nous conduit à Carpentras.
Quand on arrive à Carpentras, on ne peut pas ne pas le voir. Qui ça? Mais Monseigneur d'Engembert. Un statut qui montre sa bibliothèque. J'ai dit bibliothèque. Sa bibliothèque est le musée. Fonds musical ancien, correspondance de l'humaniste Peiresque avec tout ce que la Renaissance comptait d'érudits en Europe et en Orient, évangéliaire grec, Bible vaudoise, objet de culte juif, du rare et du bizarre, on trouve tout à Alain Gambertine de Carpentras.
On trouve tout. Là, mais bon, alors, nous étions dans une présentation en 1990 de ce musée, cette bibliothèque-musée. Jean-Yves Baudouy, vous êtes directeur de la bibliothèque-musée Gambertine à l'Hôtel Dieu de Carpentras. Alors déjà, présentez-nous le lieu. C'est quoi ce lieu?
Alors déjà, la bibliothèque à l'époque, enfin, a évolué depuis cet enregistrement, puisqu'elle a déménagé récemment à l'Hôtel Dieu, qui est une autre fondation de Dengambert, qui est un vaste palais pour les pauvres malades de Carpentras. L'hôpital a été en usage jusqu'à il est du 18e siècle, un très très beau palais classique, classé dès 1862, c'est montrer la qualité. À l'époque, on ne s'intéresse pas trop à l'art classique et à l'architecture classique. Et donc voilà, on a transféré ce bibliothèque-musée dans ce palais. Et donc, c'est comme l'a dit ce reportage, c'est une bibliothèque encyclopédique et qui, au-delà de tous ces documents historiques, ajoute aussi des œuvres de l'art, des œuvres archéologiques, des objets ethnographiques, voilà, tout ce qui concourt à l'éducation de l'honnête homme, comme on le concevait au XVIIIe siècle.
Avec une bibliothèque, c'est vrai que le mot est très beau, bibliothèque, ça fait tout de suite rêver, on pense à des livres, et puis après, vous arrivez avec votre catalogue de bibliothèque et vous calmez tout le monde. Qu'est-ce qu'on trouve comme ouvrage dans votre bibliothèque?
Alors, on ne trouve pas tout, mais on trouve de tout, effectivement. Et le reportage le résume assez bien, effectivement. Donc, il y a un peu plus de 300 manuscrits médiévaux enluminés. C'est une collection assez conséquente. C'est l'équivalent de ce que conserve la ville de Marseille pour une petite ville comme Carpentras. C'est assez conséquent. Des incunables. Et on a effectivement ce fonds Peiresque, Nicolas-Claude Fabrice de Peiresque, qui est le dernier grand humaniste au XVIIe siècle, grand humaniste européen, qui s'intéressait, c'est le savant universel, et qui s'intéressait à tous les sujets, notamment archéologiques. C'est un des ancêtres de l'égyptologie et de l'archéologie en général. Et Dengambert avait acheté les registres, ce qu'on appelle les registres Peiresques. Ce sont 120 registres. La moitié sont constitués des sujets d'études de Peiresque sur l'astronomie, la botanique, l'archéologie, etc. Et l'autre moitié, ce sont les minutes de sa correspondance, puisqu'il était en lien avec tout le monde éclairé, occidental, mais aussi autour de la Méditerranée. Et donc, c'est un fond, en tout cas, qui fait le point sur le savoir dans ce premier XVIIe siècle.
Gambert, c'est cet évêque du XVIIIe siècle, dont la statue est présente devant l'hôtel Dieu.
Voilà, et Dengambert avait fait l'essentiel de sa carrière en Italie, dans l'entourage notamment d'un pape, Clément XII, le cardinal Lorenzo Corsini. Il est doté d'importantes charges honorifiques et rémunératrices. Il est fait abbé commendataire de Citeaux, de Montmajour, archevêque et une partie bouse de Théodosie. Et il a, au-delà de ses charges honorifiques, d'importants revenus. Et lorsqu'il est nommé au siège épiscopal de sa ville natale, à Carpentras, en 1735, il décide d'être évêque résident. Et il va garder cette fortune, ses revenus. Il va souhaiter les mettre à disposition de ses concitoyens en fondant à la fois cette bibliothèque, en l'ouvrant au public dès 1745. Il renforce ce caractère public puisqu'il lègue l'institution à sa mort en 1757. Il l'écrit dans son testament « Je lègue à mes concitoyens, diocésains et étrangers de quelque pays qu'ils puissent être, ma bibliothèque », il va la décrire. Voilà. Donc elle a un statut public dès 1757 et elle deviendra municipale après la Révolution.
Laure Barthet, vous, c'est le musée Saint-Raymond à Toulouse. Les histoires de musées, on les oublie souvent, mais on a dit que lors de la visite, il y a l'exposition temporaire, les collections permanentes, le lieu lui-même, et le lieu lui-même a son histoire. Et ça, c'est systématique. Et c'est aussi intéressant de transmettre cette histoire-là.
Complètement, d'autant que pour un musée d'archéologie, ça fait sens de relier le bâtiment écrin avec l'histoire même de la ville qui est exprimée par les objets que vous allez retrouver dans le parcours permanent. Le musée Saint-Raymond, en plus, il est très bien placé, son emplacement est splendide. Vous êtes vraiment à deux pas de la basilique Saint-Sernin. On vous encourage à aller d'ailleurs admirer sa nouvelle rosace que l'on doit à l'artiste contemporain Otoniel. Vous avez le petit jardin du musée Saint-Raymond aussi qui vous permet de profiter d'un niveau de fraîcheur en ce moment. C'est utile donc dans l'hypercentre de Toulouse. Et donc ce bâtiment en Saint-Raymond, ce qui est assez génial, c'est que c'est à la fois un musée de France au sens réglementaire, c'est un monument historique, mais c'est aussi un site archéologique, puisque dans notre sous-sol, vous pourrez voir des sarcophages, les vestiges d'un four à chaud qui datent de la période visigothique notamment, mais qui illustrent aussi le premier ou second grand chantier pour l'édification de la première ou seconde basilique Saint-Sernin, l'établissement pré-roman, si vous voulez. Et Et donc le lieu lui-même, en fait, est un morceau de l'histoire de Toulouse. Seul inconvénient, bien sûr, c'est que ce n'est pas un bâtiment qui a été conçu pour devenir un musée. Hein. Il a ouvert à la fin du 19e siècle. Et bien sûr, les collections depuis se sont considérablement enrichies. Les usages se sont transformés. Et donc c'est vrai qu'on est un peu à l'étroit malgré tout.
Bah, tous les quatre aujourd'hui, c'est pareil. Hein. Le musée d'archéologie nationale Saint-Germain-en-Laye, bah, c'est le château de Saint-Germain-en-Laye. C'était pas destiné à être un musée. On se débrouille.
Exactement. En fait, ce musée qui a été voulu par Napoléon III en 1862 occupe un château royal, le château quand même où Louis XIV est né. Hein, c'est pas peu dire tout de même. C'est un très beau bâtiment qui a été très rénové, mais qui n'est absolument pas adapté à la conception d'un musée, même si depuis sa rénovation, il a quand même fait ses preuves. Maintenant, il est un tout petit peu à l'étroit. Lui-même est un peu...
Bon, il est très bien. La visite, c'est toujours un plaisir. C'est pareil à Vilquier, hein, vous nous l'avez dit. C'est une maison bourgeoise qui n'est pas destinée à devenir un lieu d'exposition, un musée. Ben si, on le fait quand même.
C'est ça, il y a des contraintes, les deux étages à monter, c'est compliqué de monter une exposition dont les réserves sont au deuxième et l'exposition au premier. Ça demande beaucoup de manipulation et d'organisation, plus que dans un musée moderne où les passages sont construits pour pouvoir laisser passer des œuvres monumentales. Moi, quand j'ai... Bon, alors, les fonds de la maison Victor Hugo, c'est beaucoup de fonds manuscrits, mais je peux avoir des grands formats et pour passer une porte qui fait... entre 70 et 80 cm de large, ça peut être un peu compliqué. Et il y a trois marches par-ci, trois marches par-là, parce qu'il y a différentes ailes, donc des étages différents. C'est assez sportif, mais ça donne un charme, vraiment. Et le sujet de la maison étant Victor Hugo, la famille Vacry, la rencontre entre Charles et Léopoldine et le drame de Vilquier, cette maison donne aussi son charme à la présentation permanente du musée.
Oui, ça convient bien, c'est vrai, à ce qui est exposé avec, dans la bibliothèque musée Ingamertin à Carpentras. Là aussi, hein, autant de défis, j'imagine.
C'est aussi des atouts. Il faut préciser, bon, l'Hôtel Dieu était un bâtiment public, mais c'est aussi un atout. Ce sont des contraintes, comme vous le dites, mais c'est aussi un atout dans l'expérience du public aussi, de découvrir un monument historique de qualité.
Oui, voilà, parce que c'est vraiment ce plaisir-là. Et quand on est en vacances et qu'on passe devant, d'un seul coup, d'entrer et de voir ce qu'il y a. Et qu'est-ce qu'il y a ? Une exposition. Elle est consacrée à qui, Jean-Yves Baudouin ?
Elle est consacrée à Joseph Siffré Duplessis, qui est un enfant de Carpentras, qui est né en 1725. Donc, on fête le 300e anniversaire de sa naissance. Et Joseph Siffré Duplessis, voilà, a eu un destin artistique assez exceptionnel. Il a été le peintre de la cour de Louis XVI. C'est lui, il a peint en fait tous les plus grands de cette cour. Et les acteurs de ce deuxième, on va dire, 18e siècle. Voilà. Et donc, il a peint notamment le portrait officiel de Louis XVI, le portrait de Benjamin Franklin, par exemple, lors de son long séjour à Paris pour plaider le soutien de la France dans la guerre d'indépendance américaine. Et donc, il a produit deux portraits de Benjamin Franklin qui sont, depuis 1929, par exemple, reproduits sur les billets de 100 dollars. Donc, c'est un artiste, en tout cas un portraitiste, qui a inscrit effectivement un certain nombre de portraits dans l'imaginaire collectif et dont on ignore peut-être le nom aujourd'hui, puisqu'il s'est effacé avec le temps, et on a souhaité cette année effectivement valoriser cette figure. On a sollicité un commissaire scientifique, Xavier Salmon, qui a fait aussi tout un travail de mise à jour sur la connaissance de l'œuvre de ce peintre, et il a produit à la fois une monographie et il a été le commissaire de cette exposition.
Oui, parce qu'il faut la construire, cette exposition. C'est pas parce que Duplessis est né à Carpentras qu'on peut faire facilement une exposition à Carpentras pour faire venir les œuvres. Comment ça se passe à ce moment-là?
Oh ben à ce moment-là, il faut convaincre... Enfin, il faut déjà... le travail scientifique, Xavier Salmon avait dressé un propos, on va dire, d'exposition, une sélection d'œuvres, et après on sollicitait les prêteurs, qui plus est, donc là c'était des prêteurs sur le territoire national, mais au-delà, puisque l'œuvre de Duplessis rayonne, hein, notamment aux États-Unis, au Canada et en Autriche, par exemple. Et eh bien, on essaie de convaincre... Voilà, on sollicite les prêts. On est une institution jeune dans sa rénovation, peu connue. Et donc, il a fallu convaincre un certain nombre de prêteurs qu'on avait la capacité à recevoir ces œuvres, à les présenter. Et voilà, après, tout s'est fait relativement facilement, je dirais. On a obtenu tous les prêts que l'on a sollicités, sauf un. Et tout, après, suit son cours, comme... mes collègues le savent.
Oui, c'est une aventure à chaque fois, une exposition, hein, vous le confirmez. Ça se prévoit combien de temps à l'avance, Roland Simon-Millot ?
Alors, c'est une aventure collective, ça c'est le moins qu'on puisse dire, qui nécessite beaucoup d'énergie. Et pour notre part, nous, ça fait quand même 3 ans hein, qu'on y réfléchit et qu'on y travaille sérieusement.
Ouais, 3 ans à peu près, dans le cas de Léopoldine Hugo.
Alors, l'exposition qui va s'ouvrir là ce soir est le point d'orgue de cette célébration pour le bicentenaire de Léopoldine. Donc, c'est la suite. Le bicentenaire, on l'a imaginé dès 2022-2023, parce que Léopoldine est importante pour le site. Et on a mis en place différents événements pour justement rendre hommage à Léopoldine et aux collections du musée. Et donc, nous, on a commencé cet hommage-là, en fait, depuis juin 2024. Et ça se prolongera jusqu'en avril 2025.
Ah oui, voilà. Donc, c'est un processus plutôt. Ça s'inscrit dans une série de manifestations. Laure Barthet à Toulouse, au musée Saint-Raymond, au moment de réfléchir à construire une exposition, parce qu'il y a tellement de sujets, il y a tellement de choses à voir. L'idée de sortie de boîte, les trésors de réserve, comment naît une telle idée?
En fait, je pense que dans nos métiers actuellement, on essaye tous, et là je pense que mes collègues ne me démentiront pas, on essaye d'être malin, c'est-à-dire quand on produit quelque chose, que ça puisse servir plusieurs fois. Par exemple, sortie de boîte s'appuie aussi sur l'exposition précédente. On a tenté quelque chose, c'est-à-dire que la scénographie que nos auditeurs vont découvrir est un remploi complet d'une partie de l'exposition précédente, Cathare, Toulouse dans la croisade. Là, l'exercice intellectuel était compliqué. D'habitude, comme un storyboard de film, en fait, on a une démonstration scientifique à faire et des outils de médiation à poser, et on bâtit la scénographie, donc le mobilier, le parcours autour. Là, c'était l'inverse, c'est-à-dire qu'on avait une boîte et il fallait rentrer dans la boîte, tout en ayant bien sûr un parcours cohérent. Donc c'est une autre gymnastique intellectuelle. Donc c'était intéressant sur le plan d'exercice développement durable, mais aussi parce qu'on gagnait un peu de temps de production. Évidemment, cette expérience n'est pas reproductible à tous les sujets. Nos prochaines expositions, on repart sur de la méthodologie classique. Mais voilà ce qu'on voulait faire pour sortie de boîte. Et il y avait aussi un appui, puisque par rapport à notre travail de fond, les restaurations que nous avons menées pour sortie de boîte ont été menées en priorité sur des objets qui vont ensuite être réinjectés dans le parcours permanent. Donc voilà, on n'est pas des équipes pléthoriques et on essaye à chaque fois d'être assez stratège dans la façon dont on bâtit nos sujets d'exposition.
Jean-Yves Baudouy à Carpentras, en écho à ce qui vient d'être dit, une exposition, c'est aussi l'occasion de faire l'état des œuvres. Et pourquoi pas de les restaurer s'il y a besoin?
Tout à fait, puisque toutes les œuvres exposées ont fait l'objet d'un traitement minimum, au moins de remise en état de présentation. Et c'est l'occasion de valoriser l'artiste via ses restaurations aussi.
Avec toujours cette idée-là, le moment de réfléchir à construire une exposition, c'est l'idée, et peut-être parfois une forme de hasard, avec Duplessis, ce peintre de la cour de Louis XVI, exposé à Carpentras. Nous avons une galerie de portraits. Excellent portraitiste, hein. On a plein de personnages, certains que l'on connaît, et j'ai envie de dire que l'œuvre elle-même est connue. Vous avez cité Benjamin Franklin, ce tableau, nous le connaissons tous, c'est le billet qu'on voit dans les films. Et puis, il y a tant de personnes là, c'est quoi la démarche? C'est de dire, nous mettons en avant l'aspect historique pour présenter qui sont ces gens de la cour de Louis XVI, ou alors l'aspect esthétique, l'histoire de l'art, regardez la qualité esthétique de ces portraits.
Le propos est initialement de valoriser l'œuvre de Duplessis, mais dans les cartels, on est obligé, je pense, pour le respecter le public, de lui expliquer qui est représenté. Mais le propos est d'abord de présenter la diversité de l'activité de Duplessis, à la fois peintre de cour, peintre aussi du monde scientifique, littéraire et artistique, et aussi sa clientèle de province. Il avait une clientèle de province. Et ce sont souvent dans ces petits portraits de la clientèle de province où il exprime le mieux son talent à rendre compte des caractères, en fait. C'était une des qualités qui lui était reconnue, que Diderot souligne dans ses critiques du salon. Et on voit de beaux portraits d'apparat, où on voit tout son talent à rendre compte des tissus, des étoffes. Mais c'est souvent dans ces petits portraits d'amitié, parfois, qu'il rend compte véritablement de son talent de peintre psychologique, en fait.
Duplessis, c'est le peintre officiel, le portraitiste officiel du roi Louis XVI. Écoutez cette archive, c'est rigolo, c'est Sacha Guitry qui explique au moment de réaliser son film, on est en 1953, si Versailles m'était compté, comment il a choisi son acteur pour jouer Louis XVI, parce que c'était pas du tout gagné. Il y avait Serge Bokanowski qui était là, l'administrateur général qui gérait les petites affaires. Et puis.
Il y avait auprès de lui, donc auprès de moi, Gilbert Bokanowski. Courtois, certes, il l'était resté, affable aussi, mais il était devenu peut-être un peu distant. Et s'il continuait d'être un homme actif, du moins, n'en avait-il plus l'apparence. Que s'était-il donc passé le 11 juillet? Eh bien, une soudaine élévation de sa position sociale. Je lui avais dit tout à coup, décidément, vous lui ressemblez à tel point que je vous distribue le rôle de Louis XVI. J'étais frappé de cette ressemblance depuis déjà quelques jours. Sans doute lui-même y pensait-il de son côté, mais réellement, nous ne nous en étions pas soufflé mot encore. Cependant, quand il m'arrivait de dire « Ah, il faut tout de même penser à Louis XVI », eh bien, il se tenait soudain plus droit, mettait ses mains derrière son dos, devenait distant, tendait un peu le cou déjà, et se voyait si bien avec la perruque blanche du pauvre Capet, si bien que ma foi, je finissais par le voir ainsi. Je savais qu'il avait fait le conservatoire, et j'étais sûr qu'il tiendrait excellemment ce rôle, mais je ne m'étais pas trompé.
Gilbert Bokanovski, donc Boca, le producteur du film qui a joué trois fois Louis XVI pour Sacha Guitry. Il est devenu ce Louis XVI. Là, il y a ici un moment de vie exceptionnel pour cet homme-là et pour les gens qui viennent visiter les expositions, un moment de vie exceptionnel. À Carpentras, c'est ça aussi. Il y a l'exposition, on l'a dit, il y a les collections permanentes, il y a le lieu. Et puis, il y a le à côté. Il y a là où on peut boire un verre. Enfin, dire que visiter une exposition, c'est pas uniquement être devant des œuvres, dans des salles très belles. Il n'y a pas que ça, c'est un ensemble.
Voilà, c'est une expérience, un moment à apprécier et à partager, je crois, et qui se prolonge souvent aussi avec de la lecture.
Oui, le catalogue de l'exposition, la monographie.
Voilà, qui vient prolonger cette expérience, ce bon moment.
Laure Barthet à Toulouse pour le musée Saint-Raymond, vous nous l'avez dit tout de suite, il y a un petit espace de fraîcheur grâce à un jardin. Eh ben, ça fait partie de l'exposition, du moment exposition.
Complètement, l'à côté. Puis vous savez, aujourd'hui, quand même, les visiteurs, ils sont à la recherche d'une expérience. On peut pas juste, pardonnez-moi d'être aussi trivial, leur vendre le billet du musée. Et puis, le travail s'arrête là. Bien souvent, les visiteurs vont regarder mes collègues en salle et leur disent « Bon, voilà, on vient de finir. Qu'est-ce que vous nous conseillez ? Où est-ce qu'on peut aller boire un verre, manger ?» Et donc, c'est vrai que mes collègues doivent être en position de pouvoir les renseigner. Encore une fois, d'autant plus dans un musée d'archéologie, on parle de sites, en fait, à Toulouse même, et on peut évidemment inviter les visiteurs à poursuivre l'aventure de l'exposition en allant eux-mêmes se rendre sur place pour comprendre dans la topographie même de la ville des éléments qu'ils auront découverts dans notre exposition.
Et puis vivre l'expérience à Vilquier, dans le cas de l'exposition consacrée à Léopoldine Hugo, c'est une évidence. Ce lieu-là où ils étaient, cette table dressée, où ils auraient pu manger s'il n'y avait pas eu le naufrage, tout ça, ça fait partie de l'expérience. Je vous le dis autrement, c'est que on pourrait avoir cette exposition ailleurs. Ce serait faisable de mettre les œuvres ailleurs, mais elles n'auraient pas le même sens que d'aller dans la maison Vacry, le musée Victor Hugo à Vilquier.
Bah, exactement. En vérité, cette exposition-là a aussi du sens parce qu'on est à Vilquier, parce que c'est là que Charles et Léopoldine se sont rencontrés la première fois en 1839 lors de vacances organisées par Auguste Vacry, le frère à Vilquier. Et c'est alors qu'ils étaient en villégiature à Vilquier aussi, que cet accident est arrivé. Et là, le lieu a vraiment du sens par rapport à l'histoire qu'on va raconter et qu'on veut raconter dans cette exposition-là. En sachant que l'idée, c'était aussi de sortir du musée, puisque c'est pas que la maison Vacry qui est rentrée dans l'histoire littéraire avec les contemplations, c'est aussi Vilquier. Parce qu'à Vilquier, il y a une église qui est classée monument historique. Et dans le cimetière de cette église, on a la famille Vacry qui est inhumée, Charles et Léopoldine dans le même cercueil, mais on a aussi les deux Adèles, la mère et la fille, la mère de Léopoldine, la femme de Victor Hugo et sa sœur Adèle, deux qui sont aussi inhumées à Vilquier. Donc l'idée, c'était aussi, dans les pas de Victor Hugo, dans les vers de Victor Hugo, essayer de faire aussi découvrir le village de Vilquier, puisque c'est un village de 600 habitants, donc qui est réuni avec deux autres communes qui sont Saint-Vendry et Côtebec-en-Caux, qui devient maintenant Rive-en-Seine, mais Vilquier est un petit village de 600 habitants, et l'idée, c'était aussi, et vraiment en bord de Seine, avec un jardin, la fraîcheur, les vallons, la forêt, c'est un environnement extrêmement agréable, et on avait envie aussi de faire sortir les gens pour aller découvrir cette église qui est classée monument historique et ses sépultures de la famille Hugo et de la famille Vacry.
Et puis, c'est pareil à Saint-Germain-en-Laye, au musée d'archéologie nationale, c'est visiter le lieu, l'expo, etc. Et puis après, se balader, cette promenade-là, cette terrasse est juste sensationnel.
Absolument, Xavier Mauduit, absolument. On y a même réfléchi d'emblée parce que cette idée d'expérience totale, cette idée aussi, comme le disait Laure Barthet tout à l'heure, que l'archéologie, c'est d'abord le terrain, on y a pensé dès le début. Nous avons réoccupé une petite partie de ces très beaux jardins, le nôtre qui accompagne le beau château de Saint-Germain-en-Laye, et nous y avons créé notamment un petit espace consacré aux plantations de l'âge du bronze qui permettent aux visiteurs, une fois qu'il peut sortir de l'exposition, d'aller toucher des blés anciens, d'aller voir à quoi ressemble le lin, par exemple, parce qu'on en parle beaucoup dans l'exposition. Et puis, on a même prolongé cette exposition par une exposition de panneaux réalisés par l'INRAP qui permettent de voir enfin ces sites dont on parle dans l'exposition et qui permettent de compléter un peu les beaux objets par le terrain. Ça nous paraissait absolument essentiel parce qu'effectivement, l'archéologie, c'est d'abord le site.
Eh oui, c'est le site, c'est ça. Et puis, le lieu de l'exposition, ça veut dire déplacement, ça veut dire un effort, ça veut dire de l'argent aussi. On paye un ticket d'entrée. Alors, faut regarder, il peut y avoir des tarifs réduits, il peut y avoir des entrées gratuites. Laure Barthet, c'est ce défi aujourd'hui, mais il est le même que par le passé, sans doute, de faire venir les gens aux expositions, tout simplement, pour dire, mais allez-y, poussez la porte, n'ayez pas peur. Alors oui, ça coûte peut-être un peu d'argent, mais c'est tout ce travail des enseignants, des enseignantes, qui ouvrent à la culture. Et voilà, de dire, venez, vous allez vivre un moment d'exception, peut-être, en tout cas un bon moment. Vous allez comprendre des choses et vous en sortirez sans doute un peu grandi. C'est vraiment sans doute ça qu'il faut mettre en avant. C'est pas facile, hein?
Non, mais absolument, vous avez tout dit. C'est-à-dire que rentrer dans un musée, ça peut faire peur, pour plein de raisons. Vous n'avez pas été habitué petit. Il y a aussi des éléments sociaux qui font que ça fait pas partie de votre culture au quotidien. Donc l'école joue un rôle essentiel. Et à Saint-Raymond, comme dans d'autres musées, nous travaillons évidemment avec beaucoup d'enseignants qui nous aident à casser cette barrière. Et puis vous l'avez dit, nous, on a choisi l'entrée par l'humour. Bon, là, je vais prêcher pour ma paroisse, mais l'archéologie, c'est compliqué quand même. Hein. Entre une exposition sur les Visigoths, comme nous l'avons fait, ou sur le Duro Romain Mitra et Picasso, bon, ça parle pas de la même manière. L'archéologie, c'est très scientifique, donc on a, je vais oser le dire, souvent un petit peu plus de travail, de médiation, de détricotage à faire que de grands sujets d'art qui parlent peut-être plus naturellement au grand public. Donc c'est un défi de tous les jours. Et en plus, bien entendu, dans un contexte de crise économique.
Et pour l'exposition Visigoth, roi de Toulouse, au musée Saint-Raymond à Toulouse, on pouvait, avec un petit QR code, accéder à de la documentation, etc. Le titre, c'était « You've got Lego, the power.
You've got the power.
Voilà, c'était ça. Donc, c'est l'ambiance du musée Saint-Raymond. Merci vivement à tous les quatre d'être venus aujourd'hui dans le cours de l'histoire pour nous présenter des expositions de l'été, sachant qu'il y en a plein d'autres. Moi, je conseille toujours d'acheter la presse locale. Quand on arrive quelque part, on regarde ce qui se fait et parfois, on va tomber émerveillé par une exposition d'art, d'histoire, d'archéologie. Il ne faut pas oublier qu'il y en a plein d'ouvertes de gratuites et des initiatives aussi individuelles ou municipales. Et c'est exceptionnel. Le musée d'archéologie nationale, c'est à Saint-Germain-en-Laye. Les maîtres du feu, l'âge de bronze en France. Au musée de Saint-Raymond à Toulouse, sortie de boîte, trésor de réserve. À la bibliothèque musée Ingambertine, c'est à Carpentras. Duplessis, l'art de peindre la vie. On croise Benjamin Franklin et à Louis XVI, et à Wilquiez, enfin la maison Vacry, musée Victor Hugo à Wilquiez, c'est Léopoldine. Merci vivant à tous les quatre.
Merci.
Quand on pense que la plupart n'avaient même pas de quoi acheter leurs pinceaux.
Et ils ont fait 7000 tableaux.
Et alors qu'ils étaient chômeurs.
Des impressionnistes. Des chômeurs qui travaillent. C'était des types merveilleux, non, Henri?
Si, Carole, si.
Moi, j'aurais adoré être leur femme.
Vous n'êtes pas la seule, ils en avaient plein.
Des femmes?
Ah oui, c'était des très gros baisers.
Les impressionnistes?
Ah oui, ils bourraient tout ce qui bougeait.
Et leurs enfants?
Des cons.
Les enfants des impressionnistes, c'était des cons?
Pareil.
Ce qui paraît, Musée au musée, bah, le film de Jean-Michel Ribes, c'était le cours de l'histoire sur France Culture, une émission réalisée par Laurence Millet, avec à la technique Jean-Guilain Meige. Émission préparée par Maïwen Guizou, Jeanne Delecroix, Jeanne Copper, Raphaël Laloum, Maël Vincent Randonnier. Merci à l'INRAP, quel beau lapsus, l'Institut National de l'Audiovisuel, et à l'INRAP aussi. Le cours de l'histoire est à écouter, à podcaster sur franceculture.fr et l'appli Radio France.